rien ne peut remplacer la parole d'une personne ayant vécu un choc plus ou moins grave, plus ou moins douloureux. Aussi, l'association Elie m'a proposé de tendre mon micro et d'enregistrer ces témoignages. Déchocage est le résultat de ces rencontres. Ruben, bonjour.
Bonjour.
Alors déjà, merci de me recevoir là pour le coup chez toi, même si je suis, on va le dire à tout le monde, chez moi aussi, parce que là, pour la première fois dans des chocages, on se retrouve complètement à distance. On a fait ce choix parce qu'on n'est pas du tout à côté.
Non, exactement. Je suis à bien des milliers de kilomètres dans le froid.
Tu es situé où exactement?
Alors, je suis à Montréal, au Canada, dans la province de Québec.
Comment s'est passée ta rencontre avec la maladie, si tu me passes l'expression?
Alors, ça s'est fait après, en octobre, après le premier gros confinement en 2021. Octobre, je tombe malade, je pogne un bon rhume, je vais voir un médecin sur SOS Médecin, parce que je faisais mes études dans une ville annexe et j'avais pas de médecin de famille sur place. Il me donne des médicaments vraiment de base pour soigner un rhume, et en fait ce rhume passe pas, il se transforme en grosse toux. Et un soir, j'étais au téléphone avec mon père, et en l'espace de littéralement 5 minutes, je sens une grosse masse sous mon aisselle gauche. J'ai pensé à un ganglion, donc j'en ai fait part à mes parents, qui m'ont dit, bah, tu sais, en général, un ganglion, c'est quand il y a une petite infection, donc j'ai cherché une petite coupure, quelque chose qui pourrait faire du sens. Puis en fait, j'ai laissé passer jusqu'à ce que je rentre chez mes parents pour les vacances de Noël. Donc je suis rentré chez mes parents le 19 décembre, et le 21 décembre, on a décidé d'aller avec mes parents chez une autre médecin de famille, du coup. Là où je vis avec mes parents. Donc il s'est passé un bon 3 semaines, 1 mois depuis la découverte de cette masse sous l'aisselle gauche.
D'accord. Alors juste pour que ce soit clair pour tout le monde, tes parents vivent en France, c'est ça, hein?
Ouais, exact. Moi j'ai fait le choix de m'expatrier ou d'immigrer, au choix dans le terme, de 2 ans après tout ce parcours médical.
D'accord.
Je suis français de base. J'ai toujours grandi en France et ça va faire 2 ans maintenant que je suis parti.
Alors là donc tu fais cette découverte. Qu'est-ce que dit ton médecin de famille?
Alors mon médecin de famille du coup inspecte ma masse sous l'aisselle gauche et se rend compte que j'ai une masse en chaîne de ganglions aussi dans mon cou, au niveau gauche également. Me demande d'aller tout de suite aux urgences dans la ville la plus proche, parce que j'habite dans un petit village, et de faire en fait un scanner et une prise de sang. J'arrive aux urgences au début des périodes de fêtes de fin d'année, donc il y a pas mal de monde. À ce moment-là, les urgences sont en grève. Donc j'attends un bon 8 heures sur un brancard dans les couloirs de l'hôpital avant d'être mis dans une chambre à part juste pour une petite prise de sang. Mmh. Moi à l'époque j'ai la phobie complète des piqûres, donc on a été obligé de me mettre sous masque avec, je sais pas c'est quoi le produit, mais un peu un gaz hilarant pour que la perfusion et la prise de sang elle passe sans trop de problèmes. Et de là, en fait, s'ensuit une batterie d'examens. Donc, je passe un premier scan, je suis retourné en chambre, j'ai une autre prise de sang, je passe un second scan. Et en fait, le soir, je reste en chambre pour dormir à l'hôpital. Et à partir de ce moment, en fait, je vais plus quitter l'hôpital jusque début janvier.
Comment toi, tu vis cette situation? Est-ce que tu es accompagné par tes parents?
On est encore en période Covid, donc il n'y a pas le droit d'avoir d'accompagnant à ce moment-là à l'hôpital. Puis moi, je suis encore pour le moment aux urgences. Toute la journée, je suis aux urgences avant d'être monté dans une chambre individuelle. Aux urgences, il n'y a pas d'accompagnant. On a seulement réussi à faire rentrer ma mère le soir pour me donner quelques affaires, mon chargeur de téléphone et pour... grosso modo faire un coucou, comment ça va. Bon, c'était pas aussi joyeux que ça, mais grosso modo, c'était ça. On s'est posé pas mal de questions. Pareil, avant que je rentre en chambre, est-ce que j'ai des chats? Est-ce que je suis allergique aux chats? Enfin, pas mal de questions d'ordre allergique avant vraiment de plus creuser. Et du coup, suite à ça, le soir même, je suis emmené en chambre pour y passer la nuit. Du coup, dans une grosse ville proche de mon village, mais 2 jours après, donc moi je suis rentré le 21, deux jours, ouais, le 23. Il me semble que c'est le 23. On m'annonce que je vais être transféré du coup dans un plus gros hôpital sur Lyon.
D'accord.
Et pendant ces 3 jours, du coup, j'ai un contact via téléphone avec l'extérieur, mais je peux pas voir personne. En plus, je suis majeur, donc j'ai 18 ans, mais je suis majeur, donc j'ai pas le droit d'avoir de visite, étant donné que majeur, c'est à moi de gérer tout ça. Je suis assez seul. Et puis en fait, mes journées sont rythmées par des prises de sang, la découverte un peu de l'hôpital, donc des infirmiers qui passent, qui m'expliquent sans trop m'expliquer parce qu'ils n'ont pas non plus toutes les réponses. Jusqu'au 23, je sais plus si c'est le, non, je pense que c'est le 24 que je suis transféré, jusque du coup au 24 au matin où en fait on vient m'annoncer que je vais être transféré dans un service adéquat. Ok, un peu plus à même de traiter mon problème et que il y a une suspicion de lymphome.
D'accord, donc le mot est lâché quand même.
Ouais, exact. Sauf que moi j'ai aucune idée de ce que c'est. Je cherche pas non plus à savoir ce que c'est en particulier parce que moi mon état d'esprit c'est ça fait 3 mois que je suis à l'école, je rentre chez mes parents, j'ai juste envie de ressortir. En plus c'est les fêtes de fin d'année, j'ai juste envie de sortir, de passer un moment en famille pour les fêtes de fin d'année. Enfin, pour moi c'était plus emmerdant, pardon pour le terme, mais c'était plus emmerdant qu'autre chose d'être là. C'était pas anxiogène, ça, j'avais pas peur ou quoi que ce soit, juste ça me faisait chier clairement de passer mon peu de vacances à l'hôpital.
À partir de quand tu prends conscience de la gravité de la situation ?
J'ai une notion assez, comment dire, je sais pas comment expliquer, mais quand on m'a annoncé, du coup, quand je suis arrivé à Lyon après et qu'on m'a annoncé ce que j'avais, et c'est ce que j'ai toujours dit à mes parents, si on m'avait annoncé que j'avais une gastro, c'était exactement la même chose. J'ai pas eu du tout de choc ou de... Je l'ai vraiment pas mal vécu, cette annonce. Encore une fois, ça m'emmerdait de me dire, ok, bah, il va y avoir ça. Moi, j'ai juste envie de rentrer chez moi, laissez-moi. En gros, j'ai pas mal vécu l'annonce. Moi, je pense que je fais partie des gens pour qui le choc de cette annonce a été... Après la maladie, j'ai vraiment mal vécu l'après-maladie. Et bah, pendant, ça a été compliqué avec les traitements, bien sûr, mais ça a été compliqué physiquement plus que moralement, en fait.
D'accord. Comment se passe ta vie de malade ? Est-ce qu'elle est, pareil, rythmée par les examens à l'hôpital ?
Alors, j'ai eu deux traitements différents de chimiothérapie. Un premier qui se faisait, en fait... C'était 3 jours à l'hôpital, puis ensuite j'avais 7 jours de chimiothérapie médicamenteuse à prendre oralement, donc que je pouvais prendre chez moi, puis un dernier jour à faire en hôpital 2 jours, donc en intraveineuse. Et ensuite, alors dans mes souvenirs, il me semble que j'avais une semaine de répit, je sais plus si c'est une ou deux, mais en tout cas j'avais quelques jours de répit, puis ensuite je refaisais ce cycle. Donc j'avais 3 jours à l'hôpital, 4 ou 5 jours, je sais plus, en médicament oral, puis un dernier jour en hôpital 2 jours. Pendant cette période, on est en plein hiver. Bon, en plein hiver, on s'entend que c'est pas les hivers les plus froids, donc on peut quand même se permettre de sortir et de faire des choses, mais oui. Socialement, la vie est quand même plus à l'arrêt. Le Covid est toujours quand même globalement présent, donc pendant ces traitements-là, disons que ma vie était arrêtée, mais la vie de tout le monde l'était aussi un peu, donc oui. Ça n'a pas été si compliqué que ça. Si c'était, on va dire, la découverte, même si c'est une découverte assez, assez effroyable et vraiment pas agréable, mais c'est en fait l'apprentissage de noms de médicaments, l'apprentissage de méthodes, l'apprentissage de techniques de soins, l'apprentissage aussi de comment se passe la journée dans l'hôpital, au niveau du corps médical, de la nourriture sur place. Donc, je ne l'ai pas tant mal vécu, étant donné que j'apprenais quelque chose, même si c'était à mes dépens, mais j'apprenais quelque chose. Ensuite, je suis passé sur une autre chimio qui, en fait, elle était... J'avais une chimio en hôpital de jour et ensuite, j'avais 15 jours où j'étais, en fait, plus tranquille et je pouvais rentrer chez moi. Je rentrais chez moi. Et celle-là était compliquée à la longue parce que, du coup, mes traitements duraient 6 mois et j'ai eu plus de 4 mois de cette chimio-là.
D'accord.
Et c'est cette chimio-là qui a été très compliquée parce que, bah, au fur et à mesure, on s'éloignait de l'hiver, on rentrait dans le printemps, l'été, les beaux jours, là où on commence à avoir une vie sociale. Moi, j'ai eu la chance, c'est que dans mon état, et avec le Covid, tout le monde portait un masque, donc j'avais le droit de sortir en extérieur, de rentrer dans des grandes surfaces comme tout le monde. J'avais le droit aussi et mon état me permettait de retourner un petit peu en cours sur, étant donné que c'était des périodes de 15 jours entre chimio, sur ma deuxième semaine, je me sentais mieux, donc je pouvais me permettre de retourner en cours dans mon appartement. Donc, encore une fois, pareil, ça, les effets secondaires, etc., ça a été assez compliqué, mais j'ai quand même pu continuer à avoir une vie normale, entre gros guillemets, et de continuer à c'est ça, sortir, retourner en cours, bah sortir juste sortir en extérieur, je sortais pas les soirs, etc. Mais
Oui.
j'avais une vie plus ou moins normale, en tout cas de ce qu'était la normalité en période de Covid, encore une fois.
D'accord. T'as 18 ans, t'es malade. Comment se passe l'intimité quand c'est comme ça? Est-ce que toi, tu es en couple à ce moment-là ou est-ce que tu as des rapports et qu'est-ce qui se passe?
Moi, quand je suis arrivé à l'hôpital, j'ai eu rendez-vous au Sécos pour faire un dépôt de sperme pour pouvoir congeler en cas d'infertilité due au traitement. Je suis en couple à ce moment-là, mais ça, la maladie a pas, ça a pas été un facteur compliqué, j'ai envie de dire. Enfin, j'ai pas le souvenir ni l'impression d'avoir... Ce qui a été compliqué, c'est plus en fait le fait de devoir rythmer ma vie d'aller-retour en fait chez mes parents, puis à Lyon pour les examens, qui en fait bah, coupé à chaque fois mon rythme de vie. Et puis la chimio, c'est traître, c'est dès qu'on va un peu mieux, hop, on en remet une couche et c'est là que ça devient compliqué. Mais non... Au niveau de moi, ma relation, il n'y a pas eu. Bah, l'après maladie a mis un terme à cette relation, mais le pendant, il n'y a pas eu de différence sexuellement non plus. Il n'y a pas eu de. Vraiment, ça n'a pas tant impacté ce pan-là de ma vie.
D'accord. Tu disais que donc c'était une relation qui s'était terminée par la suite. Tu as sous-entendu à plusieurs reprises qu'il y avait vraiment eu un retour de balancier post-chimio. Comment s'est passé du coup ce moment où on te dit bah ça y est, en tout cas il y a quelque chose qui va mieux. Comment on le vit?
Moi, on m'a dit que j'étais en rémission métabolique complète pendant mes chimios parce que ma première chimiothérapie, donc mon premier cycle de chimio avec ma chimio numéro 1, disons, elle m'a permis d'être en rémission métabolique complète. Et c'est ma deuxième chimio qui, elle, était une chimio anti-rechute, donc qui m'a en fait, disons, nettoyé toutes les cellules du corps. Pour éviter qu'il y ait encore des traces cancéreuses et qu'elles se redéveloppent, si j'ai bien suivi mes cours à l'hôpital. Mais grosso modo, moi, j'ai compris que c'était comme ça que ça fonctionnait. Quand on m'a appris que j'étais en rémission métabolique complète, bah, forcément, j'étais content, mais j'étais encore en plein dans la maladie. Donc, ça a pas eu un, bah, ça a eu un impact moral, mais ça n'a pas été... La fiesta, j'ai envie de dire, en mode wouhou, tout est fini, pas du tout. J'étais encore, j'étais au tiers de mon parcours de malade. À la suite, quand j'ai eu ma dernière chimiothérapie, là, ça a été un vrai soulagement de me dire, ok, la vie reprend en fait, parce que c'est, on met sa vie en pause quand on, enfin, moi en tout cas, dans mon cas, j'ai mis ma vie en pause, j'ai l'impression d'avoir fait une pause de 6 mois dans ma vie pour pouvoir gérer tout ça. Donc, j'ai envie de dire, ma vie a vraiment repris à la fin de mes chimios, oui.
D'accord. Et comment se passe ce fameux retour à la vie?
On est début juin, donc moi j'ai fini du coup j'étais en BTS à cette époque, j'étais en première année de BTS, donc j'ai fini ma première année de BTS. On est en grandes vacances, ça fait 6 mois qu'on est malade toutes les 2 semaines. Là, on sait qu'on va être tranquille entre guillemets, même s'il y a encore forcément des rendez-vous à l'hôpital, mais qui s'éloignent petit à petit. Il y a encore une médicamentation à prendre de cachets que je prenais durant toute ma chimiothérapie, mais c'est des cachets, des protecteurs gastriques, des cachets anti-infection, etc. J'étais injecté, moi, de mes produits de chimiothérapie sur PICLINE, donc une intraveineuse dans le bras, mais j'en ai eu une qui a fait une thrombose, donc j'avais des piqûres d'INOEP, c'est un produit anticoagulant, donc j'en avais tous les jours tout de même à faire. Donc j'avais ce bagage, disons, de malade qui me suivait dans une vie que j'avais envie de vivre, mais intensément. C'est-à-dire que moi, quand j'ai fini ma chimiothérapie, j'avais besoin de vivre, mais comme je pense, j'aurais jamais eu ce besoin de vivre si j'étais pas tombé malade. Donc c'était un peu, enfin, j'avais des, comment dire, des émotions assez contradictoires, mais cette envie de vivre, elle prenait tellement le dessus sur mes soins assez dérisoires que j'avais à faire à la suite de tout ce que j'avais eu. Donc, une fois que j'étais tranquille de mes chimiothérapies, mais ça a tout de même rythmé mes jours de devoir prendre ces petits médicaments. Puis oui. C'était toujours des petits rappels de la maladie, en fait, non-stop. Oui. C'est comme si j'avais renaît dans pas une personne différente ni un corps différent, mais dans une aventure de vie, en fait, et une vie qui se dessinait complètement différemment.
Tu es donc parti, suite à ça, complètement de l'autre côté de l'Atlantique. Comment ça se passe pour le suivi de la maladie ? Là, aujourd'hui, donc, tu le disais, t'es dans une rémission. Qu'est-ce qui se passe quand tu dois voir avec tes médecins ? Est-ce que tu as fait transférer ton dossier ? Est-ce que tu reviens en France ?
Alors moi, à la base, quand je suis parti, j'avais des rendez-vous chez mon médecin, comme mes rendez-vous que j'avais avant aux 6 mois, qui sont ensuite passé au 1 an. On dit qu'on n'est plus malade, entre guillemets, et que si la maladie se redéclare, c'est pas une rechute, mais une nouvelle maladie après 5 ans. Moi, étant donné que j'étais jeune, ma médecin m'a préconisé 8 ans, donc je suis suivi pendant 8 ans avec ma médecin. On n'a pas transféré mon dossier à l'étranger pour pas mal de raisons. Déjà, c'est ma médecin qui m'a suivi de A à Z. Et autant elle que moi, on a préféré que ce suivi reste avec elle et la même personne, le même service, etc. Donc ça, c'est une des premières raisons. Ensuite, le coût des soins à l'étranger aussi, c'est un sacré... c'est un critère à prendre en compte parce que ici, du coup, au Canada, en tant qu'actuellement résident temporaire, j'ai pas accès à la couverture de santé qu'ont accès les Canadiens ici. Mmh. Donc tous ces soins sont assez exorbitants. Puis il faut trouver aussi le personnel de santé. Et ici, il y a un vrai manque de personnel de santé. Donc juste trouver un personnel de santé qui est OK pour prendre le dossier, qui semble correct dans sa manière de fonctionner et qui me convient à moi. Enfin... C'était, honnêtement, je ne l'ai quasi pas envisagé. Je me suis vite rendu compte qu'il fallait que je laisse mon dossier en France. Donc, je rentre tous les X temps quand j'ai un rendez-vous en France. Du coup, pour faire mon suivi auprès de ma médecin, mon suivi, c'est juste une palpation de mes ganglions avec ma médecin. Ça dure 5 minutes. On check s'il n'y a pas de masse. On fait un bilan à savoir si moi je vais bien, comment je me sens, etc. Je fais en amont du coup de mon rendez-vous une prise de sang. Et globalement, c'est ça mon suivi. Mais je le fais toujours en France et je rentre en France pour le faire.
Tu parlais de ton âge tout à l'heure, et puis avant de démarrer cet enregistrement, on en discutait un petit peu en off. C'est parfois compliqué de trouver la parole de jeunes malades, tout simplement parce que vous êtes moins nombreux que des personnes plus âgées. Comment toi, tu as vécu justement cet aspect-là ? Comment est-ce que tu as vécu le fait d'avoir du mal à trouver écho chez des gens de ton âge ?
Disons que pendant la maladie... enfin moi en tout cas, pendant la maladie, j'étais quelqu'un qui, quand je rentrais chez moi, je voulais vraiment pas en entendre parler. Mais quand j'étais en hôpital de jour et que je faisais mes chimiothérapies qui duraient entre arrivée, l'attente, la pause des chimios, le départ, ça durait entre 3 et 5 heures. C'est vrai que pendant ces moments-là, j'aurais aimé parler à des gens de mon âge qui vivent la même chose, qui ont la même réalité. Et en fait, j'aurais aimé ne pas forcément parler de la maladie et de l'hôpital, mais de comment eux vivent en fait à l'extérieur. Comment est-ce qu'ils ont une vie sociale? Comment est-ce qu'ils s'en sortent dans leurs études ou au travail s'ils travaillent? C'est vraiment ce côté-là qui, en fait, m'a manqué, moi, pendant mon parcours. J'ai fait partie, j'ai été suivi par l'AJA, qui est un petit regroupement de personnes qui gère les jeunes adultes et les jeunes au sein des hôpitaux, enfin, en tout cas, à l'hôpital où j'étais. Donc, elle était d'un grand soutien et mon infirmière coordinatrice était là quasiment à chaque chimio pour prendre mes nouvelles, voir ce qu'on pouvait mettre en place, etc. Donc ça, c'était un bon support, mais c'est vrai qu'il manquait le côté humain des personnes qui vivent la même chose que nous, parce que on a beau dire ce qu'on veut, tout le personnel médical et les médecins sont, enfin moi en tout cas dans mon cas, sont géniaux et j'ai vraiment aimé passer, on va dire, ce morceau de ma vie avec eux, mais ils n'ont pas vécu ce que nous on vit et avoir une, pas forcément une oreille attentive, mais un retour d'expérience de quelqu'un qui le vit aussi, ça peut être... Moi, j'aurais aimé ça et ça aurait été vraiment bénéfique dans mon cas.
Comment est-ce que ta famille a vécu ta maladie ?
Je pense très différemment de moi. Moi, comme je disais, quand j'ai eu l'annonce, ça m'a pas fait ni chaud ni froid, mais globalement, c'était ça. Je l'ai plus vécu au jour le jour sans vraiment y voir quelque chose de... horrible, j'ai envie de dire. Après, ça, enfin, la manière dont moi les médecins m'ont annoncé aussi a joué là-dedans. Moi, quand on me l'a annoncé, on m'a jamais parlé de mort, on m'a jamais parlé de vraiment, on m'a jamais mis des mots vraiment qui font peur sur cette maladie. On m'a tout de suite parlé que dans 6 mois tu verras, ce sera fini. Enfin, moi, on m'a tout de suite annoncé la chose comme ça va être 6 mois, puis ensuite ce sera terminé. Donc, ça m'a permis aussi de mieux l'appréhender et de mieux le vivre. Mais pour ma famille, qui elle, du coup, était pas du tout, ne voyait pas les médecins, ne voyait pas les infirmiers, les infirmières, ils étaient pas du tout dedans. Eux, ce qu'ils voyaient, entre guillemets, c'est ce qu'on voit sur Internet. Donc, la chose à ne pas vraiment aller regarder, mais forcément, on se renseigne quand on n'est pas dedans, en tout cas. Il me voyait, moi, qui rentrais du coup de mes cycles de chimiothérapie de jour. Forcément, après un cycle de chimio, on n'est pas
le plus frais.
On n'est pas en forme. Exactement. Eux, ce qu'ils voyaient, c'était seulement ce qui... ils n'avaient pas tout ce que les médecins disaient. Donc, ils n'étaient pas dans la positivité que moi, j'étais, parce que moi, je savais que ça allait durer 6 mois et qu'après, ça serait fini. Puis je pense qu'ils ont énormément caché devant moi pour ne pas me faire porter un poids supplémentaire de tout ça. Donc moi, j'ai eu l'impression pendant mes traitements qu'ils le vivaient pas... ils le vivaient mal, bien sûr. Tout le monde le vivait mal, mais que c'était pas si compliqué parce qu'ils le montraient pas, mais je savais au fond de moi que c'était pas le cas. Et moi, j'essayais de cacher... en fait, on a fait exactement le même schéma. Eux, ils cachaient leur mal-être et leur tristesse et leur colère envers la maladie. Et moi, je faisais pareil pour leur montrer que ça allait, qu'on allait y arriver et que tout allait bien se passer. Et donc, mutuellement, en fait, on s'est porté vers le haut en essayant de cacher. Et je dis pas que c'est la bonne chose à faire parce qu'après, post-maladie, ça fait ressortir pas mal de choses aussi qu'on a enfouies et qu'on aurait peut-être dû... expliciter et en parler. Moi, je dirais que c'est une période compliquée, c'est un moment dans la vie, mais en tout cas, moi, de ce que j'en ai tiré derrière, bien sûr, si je devais choisir entre avoir la maladie ou ne pas l'avoir, j'aurais couru vers ne pas l'avoir, mais aujourd'hui, j'en tire vraiment une force et je pense que ça me permet de voir la vie d'une manière que les gens qui ne sont pas malades ne la verraient pas de cette manière-là. Et en fait, avoir la maladie jeune, Quand on est jeune, on est encore. Je veux pas dire qu'à quand on est adulte ou un peu plus âgé, on n'a pas, on dirige pas sa vie comme on la dirige jeune. Mais ce que je veux dire, c'est que jeune, on a encore beaucoup de choix de carrière, de vie, de. On a encore vraiment des choix. Enfin, on a vraiment une ouverture de possibilités qui est énorme. Et en fait, le fait de tomber malade à cet âge-là. Moi, en tout cas, ça m'a permis de rediriger mes choix, mes envies, mes vocations, enfin, que j'aurais peut-être pas eu si j'étais, si j'avais une famille, si j'étais implanté dans un milieu social ou implanté dans un lieu en particulier. Donc, tout n'est pas simple après, loin de là, mais il y a quand même des choses de la vie qu'on prend avec beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de simplicité que quelqu'un qui n'a pas vécu en fait ce parcours de malade. Donc je pense qu'il faut essayer de se dire que ok, ça c'est compliqué à ce moment-là, mais qu'on va en faire une force derrière et que ce que je vis actuellement, bah, ce sera un tremplin. Enfin moi en tout cas, je l'ai pris comme ça, comme un tremplin pour ma vie future.
C'est magnifique ce que tu dis. Ruben, un énorme merci pour toutes tes réponses vraiment très très intéressantes. Moi je t'envoie plein de bonnes ondes pour ta vie de l'autre côté de l'Atlantique. Et puis bah, si jamais à un moment donné tu passes dans le coin et qu'on a l'occasion de se croiser, je te paye un truc à boire.
Bah écoute, avec plaisir, merci beaucoup et merci à toi de donner la parole à nous autres qui, je pense, même des années après, avons besoin de parler et envie de parler et envie que ça se sache aussi, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais il y a tout un côté aussi de... Bah moi, quand on m'a annoncé l'info, j'avais aucune idée de ce que c'était. Donc, si ça peut aussi informer et éduquer les gens sur les potentielles maladies, parce qu'un cancer à 18 ans, moi, je pensais que ça n'existait pas. Bah, si par ces biais-là, ça peut permettre de faire connaître, je te remercie vraiment pour ça et pour la voix que tu nous donnes.
Mais écoute, avec un immense plaisir, et je partage ce merci avec toute l'équipe d'Eli sans qui ce podcast n'existerait pas. Donc vraiment, merci encore et puis bah, à très très bientôt Ruben.
Merci, bye.
Ciao.
Déchocage est réalisé par TMDJC Création et produit par l'association Eli. Retrouvez la conversation entre Ruben et Sébastien, ainsi que l'ensemble de nos productions sur eli.fr, E2LYE.fr.
Nice. C'est parfait, c'était génial.
Ça fait plaisir.
Bah, écoute,
TMDJC Creations.